C'est maintenant le moment de jaser soccer avec notre analyste Vandril Lefebvre. Salut Vandril.
Salut Jérémy.
Vandril, je vais te parler un petit peu de l'Euro, ensuite de l'équipe nationale canadienne et peut-être un peu à la fin avec le CF Montréal. Le groupe de la mort, c'est finalement le groupe des surprises parce que tabarouette, qu'il y aurait des rebondissements ce matin. La France qui est allée, je dirais pas arracher un match nul parce qu'ils ont quand même dominé la Hongrie, mais veut pas, ils ont dû revenir de l'arrière pour faire match nul 1-1 face à la Hongrie. Et là, ben, la surprise de tous, l'Allemagne est en train de battre le Portugal 4-2. Qu'est-ce que tu vois de ce groupe-là à l'Euro? Pas mal plus de rebondissements qu'on pensait.
Oui, et en même temps, c'est pas vraiment surprenant parce que depuis plusieurs années, même les supposées petites équipes, finalement, imposent leur style et essayent d'aller chercher des résultats avec leur style. La Hongrie, elle sait que pour gagner un match contre la France, faut pas qu'elle produise du jeu contre la France parce que sinon, elle va s'ouvrir et elle peut en prendre 3, 4, 5. Donc, elle va fermer le jeu, être extrêmement rigoureuse, solidaire, et derrière, elle va exploiter les rares occasions qu'elle a et essayer de faire preuve d'opportunisme. C'est ce qui s'est passé ce matin, puis c'est sûr qu'en menant 1-0, là, tout à coup, ça change le match, puis tu te replies derrière, ça devient d'autant plus difficile. C'est un groupe assez ouvert, mais au vu de comment se profile ce match Allemagne-Portugal, je dirais que finalement, la France, avec son match nul, fait peut-être la bonne opération du jour, parce qu'elle s'installera seule en tête du classement après deux matchs. Et derrière, tout restera ouvert. En fait, tout le monde pourrait se qualifier encore à l'issue de ces deux journées.
Oui, c'est ça. Il faut comprendre que ce ne sont pas seulement les deux premiers qui passent, mais il y aura aussi des équipes wild card là, qu'on appelle, qui vont aussi se qualifier. Donc, pas impossible que la France, l'Allemagne et le Portugal soient tous qualifiés pour le tour suivant. Est-ce qu'il y a un pays qui t'impressionne particulièrement depuis le début du tournoi?
Bah, il y en a trois. Moi, qu'une fois ce matin, l'équipe de France, je le prends avec des pincettes. Pourquoi? Parce que c'est très contextuel face à comment la Hongrie a décidé de se présenter. Mm-hmm. Et plus on va avancer dans la compétition, moins il y aura d'équipes comme la Hongrie, logiquement, et plus il y aura d'équipes comme l'Allemagne, le Portugal, la Belgique, l'Angleterre. Et là, ça va produire du jeu et ça, c'est plus des profils pour l'équipe de France. Moi, c'est l'équipe de France, l'équipe d'Italie et l'équipe de Belgique. C'est vraiment les trois équipes qui, au regard de tous les matchs qui ont été joués jusqu'à présent, s'imposent un petit peu comme des équipes qui sortent du lot et peuvent postuler au titre final.
Bon, parlons un petit peu de l'équipe nationale canadienne de soccer. Pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi ça cette semaine, le Canada est qualifié pour la dernière phase de qualification pour ce qui est de la Coupe du monde de l'année prochaine, de 2022, au Qatar. C'est la première fois depuis 1997 que le Canada se rend aussi loin dans ses qualifications pour la Coupe du monde. Ça n'a pas été de la tarte là, contre Haïti, là, on va se le dire, mais le Canada a réussi à faire le travail au total des buts, 4-0 là, sur les deux matchs. Ça peut sembler énorme, là, mais il faut comprendre que le Canada a marqué deux buts là, dans une course perdue à la fin. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance du Canada dans cette mini-série contre Haïti?
Moi, je retiens même pas la manière là-dessus, puis je vais faire le parallèle avec la discussion sur l'Euro. À partir du moment où tu viens dans des compétitions et où c'est très important, c'est pas des matchs amicaux, là, c'est des matchs sur lesquels tu peux passer un tour suivant pour aller à la Coupe du Monde, il n'y a pas de notion de petite équipe. C'est plus vrai, ça n'existe pas. Il y a des équipes qui se préparent à une performance parce que quasiment elles jouent leur vie. Moi, ce que je retiens, c'est le job a été fait. L'équipe canadienne a suggéré cette double confrontation. Elle passe au tour suivant. La première partie du contrat est remplie et tu as eu raison de le souligner. C'est pas anodin, c'est pas rien ce qu'a fait le Canada. À travers de notre histoire, c'est une performance qui mérite d'être soulignée. Maintenant, ça n'est que la première partie du contrat. Ouais. Le contrat, on le sait là, c'est se qualifier pour la Coupe du Monde.
Bon, il y a eu cette bourde, malheureusement, du gardien Josué Duverger, qui est le gardien de l'équipe haïtienne, mais qui est un natif de Montréal. Je ne sais pas si tu l'as croisé à un certain moment donné. Le monde du foot au Québec est quand même assez petit, mais c'est le jeu qui a un peu scellé l'issue de cette série-là contre Haïti. Parce que le Canada prend tout d'un coup l'avance 2-0 au total des buts. Haïti est obligé d'ouvrir le jeu. Et ensuite de ça, le Canada finit par se qualifier. Mais Josué Duverger, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu le jeu, une passe de son défenseur en direction de la cage qui était ouverte. Il revient chercher ce ballon qui roule tout bonnement vers sa cage et à deux reprises tente de botter le ballon et rate. Et le ballon tout simplement roule jusqu'à dans le fond du filet. Écoute, il y a eu des millions et des millions de visionnement sur les médias sociaux. Malheureusement, pour ce jeune homme, qu'est-ce que tu en as pensé?
Écoute, c'est malheureux parce que c'est comme on appelle, c'est un but gag. C'est ce genre de but que tu aimerais le revoir 10 fois pour comprendre ce qui s'est passé. Écoute, pour avoir, moi, ça m'est jamais arrivé d'être mis dans cette situation, bon, pas comme gardien de but évidemment, mais comme joueur, d'être mis dans une situation où effectivement là tout s'en mêle. Et je pense que ce qui s'est passé, par contre, c'est tout simplement que il a buggé un petit peu, si tu veux. Il a eu une idée première. Cette idée a dû se fermer et là, il n'a pas su analyser qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus. Puis là, je pense que son cerveau et ses pieds, là, le discours n'était pas cohérent. Et si tu veux, c'est là où, malheureusement pour lui, s'en mêlant comme ça, il n'a jamais su rattraper, je te dirais, son hésitation initiale. Ce qui est malheureux pour lui à sa position, c'est que généralement, ça se paye cash, une erreur pour un défenseur ou pour un gardien de but. Et évidemment, tout le monde va lui tomber dessus, tout le monde va le regarder, mais cette défaite, faut pas se mentir, Jérémy, là, elle ne relève pas de cette bourde du gardien de but.
Non. Je pense que le Canada aurait quand même gagné cette série de 2 matchs, mais peu importe. Bon, on sait que ça a été quand même un peu, malheureusement, ça a fait très mal à l'équipe haïtienne à ce moment-là. Les joueurs du CF Montréal sont revenus avec l'équipe. Joel Waterman est là. Et tous les autres aussi, Samuel Piette, Zach Brouillard, James Pantémis. Maintenant, il y a des rumeurs qui envoient Zach Brouillard et peut-être même Samuel Piette en Turquie. Il y a des rumeurs qui proviennent de la Turquie comme quoi les deux Québécois pourraient éventuellement se retrouver en Europe. Les deux joueurs ont indiqué en point de presse hier que pour l'instant, il n'en était rien. Mais est-ce qu'il y a un des deux qui, selon toi, est plus susceptible de quitter via ce type de transfert?
Écoute, j'ai vu passer effectivement moi aussi un peu ces rumeurs. Je vais pas te mentir, je sais pas jusqu'à quel point elles sont fondées, infondées. Mais je te dirais qu'effectivement, peut-être parce que Zach Brouillard, de par sa position et comment il s'est installé comme numéro 1 et que c'est la meilleure de ses... Je le verrais pas partir parce que je pense pas qu'on a une relève. Alors que quand on regarde le statut de Samuel, la position dans la hiérarchie de Samuel depuis le début de l'année... par rapport à son historique au club de foot Montréal à l'Impact, on peut se poser des questions légitimement de savoir si Samuel, peut-être l'idée d'un challenge dans lequel il pourrait redevenir un numéro 1, entre guillemets, à sa position, est-ce que ça pourrait le tenter? C'est pas impossible.
Lui, il jure être encore très heureux ici, malgré le fait qu'il joue moins cette année. Et là, la question à poser, c'est veux-tu être le gros poisson dans ta ville ou veux-tu être le petit poisson ailleurs? Et peut-être aller chercher plus d'argent. Je pourrais te poser la question, toi, étant donné que t'es un Québécois et t'as joué pour l'Impact à un moment donné, quelle pourrait être sa réflexion à ce niveau-là?
Tu l'as dit quand même. C'est parce que effectivement, gros poisson, petit poisson, mais le petit poisson au salaire que j'ai vu dont on parlait dans la rumeur.
750 000 euros comparativement à 450 000 dollars américains, là.
Je veux bien être le petit poisson dans ce cas-là, Jérémy. Ça peut commencer à être intéressant. Mais non, tout ça pour dire qu'écoute, oui, il y a des considérations familiales, il y a des considérations très personnelles, mais c'est un métier. Et ça, faut pas que les gens l'oublient. Une carrière de sportif, c'est éphémère. Faut pas oublier qu'un joueur, s'il a l'opportunité de passer à la banque, comme on dit, ça va faire écho chez lui, puis on peut pas lui en vouloir.
Ouais. Bon, dernier petit point, là, parce que là, plusieurs joueurs du CF Montréal commencent à lever le ton, là, et Samuel Piette a été le dernier hier en disant là, ça n'a plus de bon sens qu'on soit pris aux États-Unis, en Floride, alors que le Canadien voyage, ils ont des exemptions, des partisans dans un édifice fermé. On a fait une exemption aux joueurs du Canadien, malgré le fait qu'ils venaient tout juste d'obtenir leur deuxième dose de vaccin. Ça faisait même pas 2 semaines, alors que les joueurs du CF Montréal sont vaccinés 2 fois depuis déjà plusieurs mois. La grogne commence à se faire sentir, Vandril, là, et je les comprends, les joueurs. Là.
Non, mais c'est clair. Écoute, là, il y a de l'incohérence. Puis moi, ce que je pense aussi, c'est les joueurs montent au créneau en essayant de, si tu veux, de créer un engrenage, de créer une forme de cercle vertueux dans lequel il va y avoir des reprises, dans lequel peut-être leur direction va se faire entendre de manière plus public, ce qui n'avait pas nécessairement été le cas jusque-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en train de travailler
Derrière les portes closes.
Oui, voilà, comprenons-nous bien. Mais c'est vrai que sortir publiquement, ça fait l'effet que ça fait, on le sait. Quand on est capable d'être appuyé puis relayé médiatiquement, ça peut avoir... Écoute, moi, ce que je trouve anormal ici, c'est plutôt le manque de cohérence entre pourquoi dans un sport nord-américain qui est structuré de la même manière ou à peu près, on est capable de l'avoir, cette dérogation, et dans l'autre, non.
Ben, c'est ça. Il faudrait que les joueurs du CF Montréal jouent avec des patins dans les pieds. Ça réglerait peut-être le problème. Merci beaucoup, Vandril. On s'en reparle très bientôt. Salut, bye-bye. Bye-bye. Petite pause au retour de ceci. On va parler à un des meilleurs joueurs de basketball de l'histoire des Redmen de McGill et pourquoi il s'implique dans une œuvre caritative.